Pauline Pucciano. La cité hantée. Partie 3. Chapitre 9. Les deux sacs. Ce fut aux petites heures de la nuit, alors qu'Albâtre gelait dans le noir, qu'Aélénor emmitoufla Artus et l'emmena jusque dans les faubourgs. Keller avait embrassé silencieusement son fils endormi et lui avait murmuré quelque chose qu'Aélénor n'avait pas entendu. Il avait ensuite regardé elle, et elle savait, sans qu'il eût besoin de parler, qu'il se rappelait cette nuit fatale où il l'avait quittée pour faire la guerre, cette nuit qui avait duré 3 ans et qui l'avait empêché de voir son fils ouvrir les yeux sur le monde. Aélénor savait qu'il était heureux aussi qu'elle vienne avec lui, avec eux, dans cette montagne glacée qui cristallisait toute leur terreur. Non pas pour mourir avec elle, mais parce qu'elle savait qu'il la croyait plus puissante qu'elle n'était. N'était-elle pas pour eux tous la mère? N'était-il pas persuadé que sa présence et son verbe souverain les protégeraient comme un talisman? Elle ne se sentait la mère de personne, à part du petit enfant lourd de sommeil qu'elle avait chargé sur son épaule, et dont le souffle lui était si cher qu'elle eût donné sa vie et celle de tous les autres pour le sauver. Et c'était bien là le moteur de son acte, aujourd'hui. Sornar avait voulu le tuer, lui. Il n'y avait rien de plus à en dire. Sa décision de le combattre avait été nécessaire, comme un réflexe ou un instinct. Elle s'imposait, sans aucune discussion possible. L'amour qu'elle ressentait pour Artus lui gonflait la poitrine et menaçait de s'extérioriser en baisers ardents ou en sanglots inarticulés. Elle savait, au plus profond de son cœur, qu'elle n'allait pas sous la montagne pour retrouver son autre fils. Elle savait, même si cette pensée ne devait jamais traverser ses lèvres, même si elle l'emplissait de honte et de vertige, qu'elle eût donné 1000 fois la vie de cet autre fils pour sauver celui qu'elle serrait maintenant dans ses bras. C'était injuste, c'était inexprimable, mais c'était la vérité du cœur et du sang. Le premier avait obéi à Joris et l'avait déchirée pour la laisser comme morte. Le second l'avait ramenée à la vie. Le premier avait été élevé de la façon la plus obscure et la plus odieuse, tandis que le second avait tété son amour, dormi dans son sein, et s'était éveillé dans son regard. Le lien du sang n'était rien face à ces 3 années de passion maternelle. Le lien du lait et le lien de la parole, 1000 fois plus fort, l'attachaient à Artus par toutes les fibres de son être. « Tu dois revenir, maman. » Aélénor le serra encore un peu plus fort, tout en allongeant un peu le pas pour contrer le froid qui commençait à lui gercer les joues. « Si tu ne reviens pas, je t'en voudrai pour toujours. » Aélénor sourit dans le noir. « Et si je reviens, est-ce que tu m'en voudras ?»« Tu dois chercher Nox, tu dois le sauver, tu ne dois pas me préférer, et tu dois revenir. »« Tu me donnes des missions bien difficiles, Artus, et moi je vais t'en donner une toute simple. Sois bien sage avec Samos, veille bien sur ta petite sœur, et n'utilise pas l'esprit si tu peux l'éviter. » Artus se dégagea pour la regarder. Il voyait qu'elle faisait effort pour ne pas utiliser l'esprit afin de ne pas attirer l'attention, mais sa pierre frontale émettait une très faible lueur, comme lors d'une utilisation inconsciente. Il se rendit compte qu'il pesait lourd pour les bras frêles de sa mère. « Pose-moi par terre, maman, je vais marcher, » dit-il à haute voix. « C'est vrai ?»« Oui, et je vais parler aussi, et accomplir ma mission, pour que tu puisses accomplir toutes les tiennes. » « Mon petit Artus, je vais te dire une chose que je ne te redirai jamais plus, mais je veux que tu l'entendes. Je sais déjà ce que tu vas dire. » « Que crois-tu que je veuille te dire ?»« Que tu peux chercher Nox et le sauver, et revenir, mais que tu ne peux pas ne pas me préférer. »« Je suis désolée, Artus. Je ne le dirai jamais plus si tu veux, mais je n'aimerai jamais ton frère autant que toi. »« Ne le dis jamais plus, maman. » Artus s'était rembruni et marchait en silence. « Et si papa et toi vous mourrez ?» demanda-t-il enfin. « On ne peut pas te faire une chose pareille, Artus. Tu nous en voudrais trop, n'est-ce pas ?» Artus regarda sa mère à la dérobée. Elle le regardait aussi, en souriant de ce sourire qu'il aimait tant et qui le rassurait toujours. « Je ne peux pas aller avec vous. » « Non, Artus, ta mission à toi est de nous attendre sagement, loin de Sornar. » Tandis qu'il parlait, la cité d'Albâtre, vaguement phosphorescente sous la sombre clarté de la nuit, déroulait autour d'eux ses palais et ses places, ses escaliers que le givre rendait glissants, ses jardins aux arbres dépouillés qui ne tremblaient pas au vent d'hiver. Ils franchirent le canal frontière et s'enfoncèrent dans la ville basse, qui leur parut presque chaude, avec ses bâtisses entassées de bois et de torchis, et ses ruelles, où l'on ne voyait presque pas le ciel. Un falot éclairait timidement la porte de Samos, et Aélénor et Artus entrèrent sans frapper, heureux de trouver dans l'âtre une flambée qui les attendait. Marvan était dans la pièce et ouvrit un œil à leur arrivée. « Bonjour, Aélénor. Samos m'a demandé de guider Artus jusqu'à sa chambre. Il se repose. » Aélénor le remercia et s'agenouilla pour aider son fils à retirer le manteau doublé qui le recouvrait. « Tiens, Artus, voici deux sacs. Dans le premier, il y a tes affaires pour quelques jours. Le petit cheval que ton père t'a sculpté, la coquille d'escargot que tu as peinte, quelques bonbons de miel et de rose que tu ne trouveras pas ici, et ton vélin d'image. Et dans le deuxième ?»« Le deuxième, tu n'en auras pas besoin. Tu ne vas pas l'ouvrir, et tu me le rendras intact quand je reviendrai. Et si tu ne reviens pas ?» « Alors tu pourras l'ouvrir, » dit simplement Aélénor d'une voix étranglée. « Ce sont des choses que nous voulons te donner et te dire, mais seulement si nous ne pouvons plus le faire nous-mêmes. » Artus regarda le sac avec rancœur. « Garde le sac, je n'en veux pas. »« Marvan, » dit Aélénor, « peux-tu conserver ce sac à l'abri et me le rendre quand je reviendrai ?»« Bien sûr. » »« Alors tout est pour le mieux, et je crois que je devrais partir. » Artus avait gardé un air buté et malheureux, et Aélénor sut qu'elle ne pourrait pas le serrer de nouveau dans ses bras. « Seulement si tu reviens, » fit-il dans sa tête. Aélénor fit luire brusquement sa pierre frontale, et l'esprit fit refluer ses larmes et lui permit de sourire. Elle fit signe à Marvan de l'emmener. « Alors je reviendrai vite, c'est promis. » Il la regarda encore avant d'emboîter le pas à Marvan, avec une intensité solennelle, et bien qu'il parût tout petit dans cette pièce étrangère, parmi ce mobilier grossier, Aélénor trouva qu'il était plus courageux que bien des adultes à l'heure d'affronter la pire angoisse qu'il pouvait imaginer. Dans la pièce désertée, elle eut un sanglot sec, comme une défaillance de l'âme, et mit plusieurs minutes à se reprendre. Puis elle sortit de la masure et laissa couler ses larmes sans recourir à l'esprit. Elle voulait goûter leur amertume et laisser sortir d'elle, en ce moment de solitude, tout le flot brûlant de sa propre angoisse. Jamais elle n'avait ainsi laissé libre cours à ses larmes, ses yeux la brûlaient tant qu'ils lui paraissaient être des plaies par où coulait son sang enfiévré. Et puis sa respiration saccadée se fit plus lente, et une paix étrange, bien différente de la paix de l'esprit, succéda aux larmes. Elle se sentait fatiguée, les paupières lourdes, et pressa le pas pour retrouver Keller. Cette nuit-là, ils ne parlèrent pas. Leurs corps se joignirent avec une énergie farouche et presque désespérée, martelant leurs doutes inavoués, leurs peurs sourdes, leurs regrets devant la mort possible, dissolvant tout dans la foudre de leur jouissance.